n'entend pas, on entend.
102.9.
Vous êtes sur fréquence missionnaire sur
102.9.
Salut, c'est Annabelle.
Salut, c'est Flora.
Salut, c'est Cédric.
Bonjour, c'est Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle Vanessa.
Salut, c'est Laurie.
Salut, c'est Gauthier.
Bonjour, c'est Vanessa.
Salut, c'est Claire.
Salut, c'est Charlène.
Bonjour, je m'appelle Flavie.
Salut, c'est Marie.
Salut, c'est Julien.
Salut, je m'appelle Émilie.
Salut, c'est Delphine.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Vous écoutez Fréquence Buissonnière sur 102.9 à Chalandray, Héron,
Froze,
Le Rochereau,
Maillé,
Latillé,
Chirin-en-Montreuil,
Vouillé,
Quincé,
Benasset,
Lavosseau,
Montreuil-Bonin,
La Chapelle-Montreuil.
Ça se passe au collège Arthur Rimbaud de 18h à 19h.
Fréquence Buissonnière.
Salut, c'est Mickaël, vous êtes sur Fréquence Buissonnière 102. Combien ?
En sautant par-dessus la haie aujourd'hui, nous verrons un écrivain répondre aux interrogations des élèves de l'atelier.
5e A, 5e B.
Nous entendrons des chansons, des comptines et des coups de fil du côté de Lavosseau, Quincé et Chalandray.
Maternelle.
Nous lirons le courrier d'une souris de Lavosseau.
CE2, CM1, CM2.
Nous croiserons aussi des tas d'enfants de fréquence buissonnière autour d'un micro. Enfin, nous suivrons attentivement les conseils météorologiques de ce jour de printemps.
Et la chorale.
Et la chorale aussi passera par là. Mais tout de suite, nous allons parler chansons françaises à Lavosseau.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Fréquence Buissonnière. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelques invités qui vont nous présenter leur projet chansons françaises. Je vous demande d'accueillir Bérénice et Johan. Vous êtes donc élèves à l'école de Lavosseau et vous venez présenter votre projet. Alors, comment va-t-il se dérouler ?
Nous travaillons avec notre maîtresse pour apprendre une dizaine de chansons françaises et nous faisons de la lecture et des recherches sur la biographie des interprètes comme Charles Trenet, Serge Gainsbourg.
Tout au long de l'année, une conseillère pédagogique, Madame Laurent, vient nous voir régulièrement. Sa visite nous sert à améliorer notre voix et à mieux chanter nos chansons.
Mais à quoi aboutira ce projet ?
Plusieurs écoles de la Vienne apprennent les mêmes chansons et elles vont se regrouper pour les chanter à l'occasion de plusieurs concerts qui auront lieu en juin 2002. Notre classe chantera avec la classe des CE1, CE2 et les élèves de l'école du Rochereau.
Merci Bérénice et Johan pour ces quelques informations. Et maintenant, je vous prie d'accueillir Léonie et Léonard qui vont nous dire quelques mots sur la vie de Georges Brassens.
Il est né à Sète, dans le sud de la France, en 1921.
Était-il un bon élève à l'école ?
Pas vraiment. En 1939, il a commencé à écrire ses premières chansons. Plus tard, Georges Brassens a fait chanter ses chansons par d'autres car il n'aimait pas trop monter sur scène.
Beaucoup de ses chansons sont très célèbres comme « Chansons pour l'Auvergnat »,« Les copains d'abord »,« Le gorille »,« La mauvaise réputation » et beaucoup d'autres encore. Dans sa chanson « Les ricochets », il évoque ses débuts à Paris.
J'avais 18 ans, tout juste quittant ma ville natale. Un beau jour au gué, je vins débarquer dans la capitale. J'entrais pas au cri d'un ou de Paris en Île-de-France. Que ton Rastignac n'est cure au Balzac. De ma concurrence.
Merci Léonard et Léonie. Pour la suite de cette longue et belle histoire, il faudra venir écouter le concert en juin prochain. Mais je vous présente sans plus attendre nos prochains invités, Élie et Chloé, qui vont nous parler d'un autre chanteur. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. De qui allez-vous nous parler ?
De Serge Gainsbourg, que beaucoup connaissent. Serge Gainsbourg est né le 2 avril 1928 à Paris. Son vrai nom était en fait Lucien Gainsbourg et tout le monde a fini par le surnommer Gainsbar.
Est-ce qu'il a toujours voulu être chanteur ?
Non, au contraire. Il voulait être tout sauf chanteur dans sa jeunesse. Il aurait voulu devenir écrivain et peintre aussi, mais il n'aimait pas ses toiles et les déchirait. En fait, c'est plutôt par dépit qu'il a choisi la chanson populaire.
Il en a écrit de très belles, non ?
Oui, de très belles qui ont eu un énorme succès. On ne peut en citer que quelques-unes, comme « Aux armes, etc. »,« La javanaise »,« Le poinçonneur des lilas », mais aussi les petits papiers que nous allons écouter maintenant.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
Après cette chanson qui, je l'espère, vous aura réchauffé, nous accueillons Zoé et Gildas qui sont venus nous dire quelques mots sur un autre auteur-interprète, Charles Trenet.
Oui, je vais en effet vous parler de la vie de celui qu'on surnommait le fou chantant. Charles Trenet est né à Narbonne en 1913. Il a fait ses études aux Beaux-Arts à Paris. Il a travaillé un temps comme décorateur de cinéma tout en écrivant ses chansons. Au début, il chantait en duo avec Johnny S. Leur duo s'appelait Charles et Johnny.
Mais quand a-t-il commencé à chanter seul ?
Il s'est lancé dans sa carrière en solitaire juste après son service militaire. On le reconnaissait à son chapeau de feutre et à l'œillet qu'il portait à sa boutonnière.
Quelles sont ses chansons les plus connues ?
Alors, il y en a énormément, mais je peux vous citer « La mer »,« Mes jeunes années »,« L'âme des poètes »,« Il y a de la joie », etc., etc. Toutes ces chansons étaient d'ailleurs très joyeuses et entraînantes.
Merci, tout de suite nous avons rendez-vous avec le soleil et la lune.
Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit.
Laissons le soleil à son rendez-vous, car nous aussi nous avons un rendez-vous à vous donner. N'est-ce pas Bérénice ?
Oui, ce sera le mardi 11 juin 2002 à la salle des fêtes d'Héron pour notre concert de chansons françaises.
Y aura-t-il d'autres chansons au programme ?
Bien sûr, en plus de celles entendues tout à l'heure, il y aura Syracuse, Les Comédiens, Le Jazz et la Java, Les Cornichons, Rosa et Göttingen.
Nous les chanterons donc avec les CE1, CE2 de la Vosso ainsi que les élèves du Rochereau. Nous serons accompagnés par des musiciens professionnels.
Merci à tous d'être venus nous présenter ce projet. Il est temps, chers auditeurs, de nous quitter. Au revoir et n'oubliez pas cette date, le mardi 11 juin à partir de 18h à Héron. Venez nombreux voir nos chanteurs et comédiens.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, viens.
Mon premier fait miaou. Mon deuxième fait de la danse à l'opéra.
Mon troisième se situe entre 1 et 3.
Charade. Charade.
Mon premier fait miaou. Mon deuxième est un oiseau blanc et noir. Mon troisième est le contraire de tard. Mon tout sera bientôt à la chapelle Montreuil. La solution. Mon premier fait miaou.
C'est un chat.
Mon deuxième est un oiseau blanc et noir.
C'est une pie.
Mon troisième est le contraire de tard.
Tôt.
Mon tout sera bientôt à la chapelle Montreuil.
Yo, Djadjo Fauté, soyez à l'écoute du 18 au 23, 102.9, une seule fréquence, fréquence buissonnière.
Aujourd'hui, c'est le printemps.
Aujourd'hui, c'est Audrey qui va nous parler de son livre. Alors, qu'as-tu lu, Audrey ?
Un poisson est un poisson.
Qu'est-ce qui se passe dans ce livre ?
La grenouille, à part, et après, elle revient dire... qu'elle a fait rencontrer au poisson.
Elle vient raconter au poisson ce qu'elle a rencontré. Alors, qui a-t-elle rencontré ?
Une vache.
Et d'abord, tu ne nous as pas dit pourquoi la grenouille est partie ?
Parce qu'elle voulait voir ce qu'il y a.
Alors, elle revient pour raconter ?
Si, elle a vu des oiseaux comme ça. Après, une vache.
Oui. Alors, pourquoi c'est rigolo quand elle raconte au poisson ? Pourquoi c'est rigolo ?
Parce que le poisson, il croit toujours voir des poissons.
Eh oui, des poissons vaches, et puis quoi? Des oiseaux vaches.
On a vu autre chose. On a vu ça.
La 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 la. Alors je vous présente Monsieur Christian Grenier, l'auteur de Virus et l'IV 3 que vous venez de lire. Vous allez lui poser les petites questions que vous avez préparées et bien écouter ce qu'il vous répond. Hein.
Mais j'aimerais vous dire que d'abord je suis très content de venir vous rendre visite à La Tillée. Je viens du Périgord, d'un endroit qui s'appelle Le Flet. C'est un village entre Sainte-Foy-la-Grande et Bergerac. Donc c'est à 250-280 km d'ici. Et c'est là que j'écris, puisque, en effet, c'est mon métier, j'écris. J'ai écrit Virus et l'IV3, mais j'ai écrit aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Virus et l'IV3 est un roman assez récent. Je l'ai écrit il y a quelques années, j'en avais écrit beaucoup d'autres avant, et j'en ai écrit une dizaine depuis. Alors que voulez-vous savoir? Vous avez des questions.
Blanchard Florent.
Florent.
D'où vient cette passion pour la science-fiction?
Alors cette passion, Florent, me vient de mon enfance. Peut-être même de... Non, de mon enfance. Pas, je crois que j'avais à peu près ton âge quand j'ai commencé à m'intéresser à la science-fiction, mais je ne savais pas que ça s'appelait de la science-fiction. Parce que à mon époque, j'avais pas de bibliothèque. Il y avait très peu de livres. Et mes parents m'achetaient des livres dans une collection qui a bien disparu aujourd'hui, qui n'existe plus. Enfin, elle a été renouvelée, ça s'appelait la Bibliothèque Verte, chez Hachette. Mais les livres de la Bibliothèque Verte étaient très laids, leur papier très jaune, il n'y avait pas d'illustration, c'était écrit avec de tout petits caractères. Et dans cette collection, je lisais surtout des romans de Jules Verne. Et Jules Verne, comme tu le sais peut-être, a écrit, il y a 120 ans à peu près, 130 ans, 140 ans, des romans qui parle de l'exploration de l'espace, de la Terre à la Lune, autour de la Lune, qui parle de l'exploration du fond des mers, 20 milieux sous les mers, qui parle de l'exploration du centre de la Terre, voyage au centre de la Terre. Donc c'était des romans qu'on pouvait appeler scientifiques, des romans d'exploration, et c'était ce qui se faisait dans ce domaine, du moins c'est ce que je croyais. Et puis j'ai appris qu'il y avait d'autres romans qui ressemblaient à ceux de Jules Verne, et j'ai commencé à les lire, et j'avais ton âge, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Par ailleurs, il est arrivé en 1957 un événement qui m'a beaucoup marqué. Ça a été le début de la conquête de l'espace. Alors peut-être que tu ne connais pas bien l'histoire de la conquête de l'espace, Florent, mais le 4 octobre 1957, et je venais d'avoir 12 ans, les Soviétiques, les Russes, ont envoyé, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, un objet dans l'espace. C'était le Spoutnik, le premier satellite artificiel. Et un mois plus tard, le 4 novembre 1957, ils envoyaient un nouvel objet, comme ça, qui est beaucoup plus lourd, qui pesait plusieurs tonnes, dans lequel il y avait un chien, une chienne, Laïka. Donc moi, à cet âge-là, donc j'avais ton âge à peu près, j'ai compris que la conquête de l'espace avait commencé. Je lisais d'ailleurs à l'époque, je ne lisais pas que Jules Verne, je lisais aussi les albums de Tintin. J'étais même abonné au magazine Tintin, Hergé était toujours vivant, et je lisais les aventures de Tintin au fil de l'imaginaire d'Hergé, puisqu'Hergé écrivait une page toutes les semaines dans le magazine Tintin, il dessinait, et à cette époque-là, c'était justement Objectif Lune. Et on a marché sur la Lune, que tu connais, que tu as lu, tout le monde a lu ça, je suppose, hein, tu l'as lu. Oui. Voilà, alors moi j'ai lu ça à l'époque où Hergé l'écrivait. À l'époque où on pensait sérieusement qu'on pourrait non seulement aller dans l'espace, et on commençait à le faire, mais peut-être même atterrir sur la Lune. Alors pour toi, Florent, c'est l'évidence, parce que quand tu es né, les hommes avaient déjà marché sur la Lune. Mais moi, à ton âge, les hommes, ils n'avaient pas été sur la Lune. Ils n'avaient même pas été dans l'espace. Donc j'ai suivi ça de très très près. J'ai voulu aussi, alors je suivais l'actualité, j'ai suivi Gagarine, qui en 61, a été dans l'espace, le premier homme à aller dans l'espace. Je suis resté sur la Terre, hein, bon. Mais je suivais les exploits des Américains, des Soviétiques, qui se disputaient la course à l'espace et qui, les premiers, voulaient poser un objet sur la Lune, aller sur Mars, aller sur Vénus, ce qu'ils ont fait. Hein, parce que des sondes automatiques ont été sur Mars et Vénus il y a très très longtemps, avant même que vous ne soyez nés, tous. Seulement les hommes n'y ont pas été. C'est sûr que les hommes n'ont été que sur la Lune. Il y a même seulement 12 personnes qui ont été sur la Lune, en fait. Donc la conquête de l'espace s'est arrêtée très vite, en 72, après avoir à peine commencé, en 57. Mais moi, j'ai continué à m'y intéresser, et puis j'ai lu énormément de romans qui traitaient de cette exploration imaginaire, future, Et ces romans s'appelaient de la science-fiction. Voilà. Et j'ai découvert la littérature de science-fiction à ce moment-là, pendant la conquête de l'espace. Et j'ai découvert aussi, Florent, et c'est peut-être là que je vais répondre plus précisément à ta question, puis je vais m'arrêter parce qu'il y en a d'autres, que cette littérature ne concernait pas seulement la conquête de l'espace, mais concernait tout ce qui a trait aux sociétés du futur, tout ce qui a trait aux sciences, aux technologies, à l'organisation du monde, de la société. Bref, je me suis aperçu que la science-fiction était un réservoir gigantesque d'imaginaire. Donc j'ai dévoré, on peut dire, des centaines, peut-être même des milliers, je crois, oui, des milliers de romans de science-fiction. Voilà comment je me suis intéressé, passionné pour la science-fiction. Et voilà comment, après en avoir lu, j'ai commencé à en écrire.
La radio, ça fatigue juste la langue.
Un réalisateur de cinéma ou de télé, vous a-t-il déjà proposé d'adapter un de vos livres ?
Si, moi j'adorais le cinéma, si j'adorais les films d'action ou les films de science-fiction, je serais Bruce Willis ou Steven Spielberg, mais je ne serais pas écrivain. Les écrivains, ils aiment le texte, ils aiment la littérature, ils aiment l'imaginaire qui passe par les mots et pas par les images. Alors ensuite, ce que d'autres font avec les mots, qu'ils les transforment en images, c'est leur problème, mais ce n'est pas le mien. Moi, je ne tourne pas de films. Je n'écris pas des histoires pour qu'elles soient tournées au cinéma. Ce n'est pas ça. Alors tu vas me dire, certains auteurs font ça. Des gens comme Stephen King, comme Michael Crichton, celui qui fait Urgence. Donc tu as des écrivains aux États-Unis notamment, qui savent très très bien qu'un réalisateur va tourner leur histoire. Alors ils n'écrivent pas d'ailleurs le roman, ils écrivent de la main gauche le roman et de la main droite le scénario du roman, de façon à vendre d'une part le roman à un éditeur et d'autre part le scénario à un réalisateur. Tu y es ? Alors que moi j'écris pas de scénario. Si, il m'est arrivé d'écrire des scénarios. Mais j'ai fait ces scénarios, j'ai écrit des scénarios de dessins animés pendant 2 ans. Mais là, je n'écrivais pas de romans, j'écrivais des scénarios directement pour la télévision. C'est un travail particulier qui n'a rien à voir avec la littérature.
Charade.
Mon premier est une exclamation. Mon deuxième est un féculent. Mon troisième sert à mettre des fleurs. Mon quatrième indique le temps. Quel est mon tout ? Harry Potter !
Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire le livre Virus et l'IV3 ?
Le problème du temps, c'est un faux problème. Alors je vais te dire 2 mois. 2 mois. Mais je pense que c'est faux parce que je pensais à ce roman depuis des années. Donc il y a toute une période pendant laquelle on mûrit une histoire. La rédaction d'un roman me prend peu de temps. Mais en fait, par exemple, j'ai écrit une histoire en 3 ou 4 heures qui s'appelle Parfaite Petite Poupée, qui fait 12 pages. Il m'a fallu une demi-journée pour l'écrire, mais ça faisait 20 ans que j'y pensais. Ça faisait 20 ans que j'y pensais. Autrement dit, Olivier, le temps d'écriture n'est un temps de véritable efficacité en ce qui me concerne que si l'histoire est mûre dans mon esprit, et si je suis décidé à l'écrire et à mettre enfin sur le papier tout ce que j'ai dans la tête. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman. Et ça fait, je crois, 8 ou 10 jours que je traîne sur les 6 ou 7 premières pages. Parce que c'est pas mûr, parce que c'est pas au point, parce que je m'énerve. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais peut-être que vous savez pas très bien ce que vous avez à dire. Je sais, Olivier, parfaitement ce que j'ai à dire, en plus. L'histoire, je la possède de A jusqu'à Z. Mais ce n'est pas parce qu'on possède une histoire qu'on est capable de l'écrire. Il me manque des éléments, il me manque le ton, il me manque une sorte de lecture au deuxième degré. Je ne le sens pas et je ne le sens pas assez pour l'écrire avec enthousiasme. Et voilà pourquoi ça coince.
Mon papa, il va au cinéma. Ma maman, elle y va pas souvent. Mon petit frère, il est allé hier, ma petite sœur, elle y va tout à l'heure. Si j'avais de l'argent, j'achèterais un bonnet blanc, un bonnet américain, pour faire peur à tous les gens. Mon bonnet est malade, je l'emmène à l'hôpital, l'hôpital est fermé, mon bonnet s'est envolé. Point final.
Où trouvez-vous votre inspiration pour écrire le livre ?
Ah, l'inspiration. Eh bien, quand j'écrivais de la science-fiction, il y a une vingtaine d'années, l'inspiration, c'était souvent la conquête de l'espace. C'était le magazine Science et Avenir, c'était La Recherche, c'était Pour la Science, c'était Science et Vie. C'était des magazines scientifiques dans lesquels je puisais, non pas de l'inspiration, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la science. Je saute sur des tas d'informations, je me dis tiens ça, je vais essayer de puiser des renseignements, et puis ça me donne des idées, c'est certain. Donc c'est ça l'inspiration. J'ai l'habitude de dire aussi, Franck, que l'inspiration, c'est la vie courante. Mais ma vie quotidienne à moi, elle est faite surtout de... Bon, il y a le quotidien. C'est vrai que je fais de la bicyclette, je me promène, on écoute la radio, on regarde la télé, on reçoit nos enfants. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le monde tel qu'il est, et surtout le monde tel qu'il pourrait évoluer, devenir. Et donc, je suis tout ce qui se passe dans le monde. Et ça donne des idées, tout ça, bien entendu. Ça donne des idées. Bon, par ailleurs, je rencontre aussi des amis, qui sont souvent des scientifiques, et je discute avec eux. Donc ce sont les rencontres, les conversations, les informations, les magazines. C'est sûr que si tu t'intéresses à rien, Franck, tu n'auras pas d'imagination. Je crois que l'imagination est en relation directe avec la curiosité, tout simplement. Mais l'inspiration, tout le monde en a quand votre prof vous demande d'écrire une histoire ou de faire une rédaction. Ça doit vous arriver. Ouais, donc vous avez bien l'habitude, vous aussi, de faire fonctionner votre imaginaire. C'est une question aussi d'habitude, hein, quand on a pris l'habitude de faire fonctionner son imaginaire, bon, il fonctionne, hein. C'est de l'entraînement comme la gym. Bien, bah écoutez, bonne lecture, au pluriel, hein. Continuez à lire, continuez à lire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait une pirouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai déchiré mes chaussettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai marché sur mes lunettes. Pirouette, sans chaussettes, sans lunettes sur le nez, je suis mal née.
Fréquence Buissonnière, c'est sur 102.9. Chiré, bonjour. En expression écrite, nous devons, à la fin du cycle 3, c'est-à-dire à la fin du cours moyen deuxième année, savoir écrire une lettre à un ami ou une amie. Nous allons vous raconter l'histoire d'une souris nommée Sourisette qui a bien voulu correspondre avec nous. Voici cette histoire. Un matin, le maître a trouvé sur le bureau une lettre. Il a, bien entendu, attendu l'arrivée des enfants pour leur lire le contenu de celle-ci. La voici.
Chers enfants, je m'appelle Sourisette. Je suis une souris et j'habite dans le mur de votre salle de classe. L'entrée de ma maison est juste sous la petite armoire de gauche. Pendant la classe, je vous écoute et de temps en temps, je vous regarde. La nuit, quand vous êtes tous partis, je sors de mon trou et je me promène sur les tables. Mais n'ayez pas peur, je ne fais pas de crotte. Ça donnerait beaucoup trop de travail à la dame qui fait le ménage. Si vous voulez bien m'écrire, je serai ravie. Au revoir, bisous, signé Sourisette. Au passage, à la fin de sa signature, elle a dessiné une souris accrochée au E de Sourisette.
Alors les enfants décident de lui répondre. Voici la lettre qu'ils ont choisie.
Chère Sourisette, je m'appelle Pierre. Merci pour ta lettre. N'aie pas peur de sortir quand on est là, parce que nous ne te voulons aucun mal. Et puis, de toute façon, je ne vois vraiment pas pourquoi on t'en voudrait. Je t'aime beaucoup, alors si tu en as envie, tu pourras me rendre visite. Chez moi, chez des amis à toi, ou bien peut-être des cousins ou des frères. J'espère que tu me présenteras ta famille. Je suis impatient que tu viennes. J'habite à Chérin-Montreuil. À bientôt. Bisous, signé Pierre.
Le surlendemain, il y a une nouvelle lettre sur le bureau. C'est Sourisette qui répond.
Mes chers petits amis, je suis ravie d'avoir reçu tant de lettres. Je vous en remercie. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu répondre aussitôt. Eh bien voilà. Ces jours-ci, j'ai été très enrhumée. Maman m'a soignée et maintenant ça va beaucoup mieux. De temps en temps, la poussière de la classe me fait tousser. Mais ce n'est pas grave. Peut-être vous demandez-vous comment j'ai réussi à apprendre à lire et à écrire. Vous savez, j'écoute et je regarde aussi la maîtresse de la classe CP-CE1. C'est comme ça que j'ai appris. Je vais donc pouvoir continuer à lire vos lettres et y répondre. Merci pour votre courrier. J'attends de vos nouvelles. À bientôt, bisous Sourisette.
Les enfants lui répondent à nouveau.
Chère Sourisette, je m'appelle Baptiste. Je suis un garçon de l'école de Chiré et j'habite à la grange. Rassure-toi, je ne suis pas méchant. Quand je suis en classe et que j'ai fini mon travail, je vais chercher un livre à côté de ta maison. Si tu viens chez moi, fais attention à mon chat et à mes chiens. Je voudrais bien te rencontrer, amicalement. Au revoir, bisous, Baptiste.
Quand je mets mon chapeau gris, c'est pour aller sous la pluie. Quand je mets mon chapeau vert, c'est que je suis en colère. Quand je mets mon chapeau bleu, c'est que ça va déjà mieux. Quand je mets mon chapeau blanc, c'est que je suis très content.
Fréquence buissonnière.
Mon cher Donovan, j'espère que tu vas bien. Moi, ça ne va pas parce que je suis allé faire les courses dans le bureau du maître. J'en ai pris un plein classeur et je suis tombé malade. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs m'ont soigné. C'est très bien. Bon, je suis fatigué. À bientôt, Sourisette.
Le mercredi, un agent communal est venu recoller des carreaux de faïence au fond de la classe et l'entrée de la maison de Sourisette est condamnée. Heureusement, le maître s'en est rendu compte et sans rien dire, il a décollé le carreau qui obstruait le passage de notre souris. Le lendemain, il y a une lettre sur le bureau.
Mes chers petits amis, j'ai eu très peur de ne plus pouvoir me rendre dans votre classe. Heureusement que le maître a retiré le carreau de faïence qui obstruait l'entrée de ma maison. Sinon, je n'aurai plus de vos nouvelles. Car, vous n'êtes peut-être pas au courant, les enfants de la classe de CPCE1 ne savent pas encore écrire de lettres. Je ne vous ai pas raconté que la nuit, avec mes parents, nous remontons à l'intérieur de la cloison de briques jusqu'au plafond et hop! Après être sortis par le toit, nous allons nous promener dans le bourg de Chiran en Montreuil. J'ai un ami qui s'appelle Sourisseau et qui habite dans l'ancienne maternelle où il y a maintenant la nouvelle bibliothèque. J'aime bien aller lui rendre visite car il me montre beaucoup de livres et de revues dans lesquelles il y a de magnifiques photos. Ces jours-ci, je ne suis pas sortie. Je crois bien que le maître m'a donné sa toux. Alors, je me mouche et je tousse presque toute la journée. Heureusement pour vous, le bruit est étouffé par la tapisserie. Bon, j'attends de vos nouvelles. À bientôt, bisous, Sourisette.
Jamais on n'a, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants.
Nos amis décident alors d'écrire une lettre à Sourisette.
Chère Sourisette, je pense que tu as vraiment eu de la chance que le maître ait retiré le carreau de faïence avant qu'il ne soit trop tard. Qu'as-tu attrapé comme maladie? Une bronchite? Une angine? La grippe? Chez quel docteur vas-tu aller pour te soigner? Sais-tu ce que le maître a fait du carreau de faïence? À bientôt, soigne-toi bien, bisous.
Les vacances vont permettre aux enfants de se reposer et Sourisette pourra aller se promener. La veille de la rentrée, c'est-à-dire le dimanche 4 novembre 2001, des cambrioleurs se sont introduits dans l'école et ont dérobé le téléviseur et le magnétoscope de la classe de CPCE1, ainsi que les lots du loto de l'école qui a été d'ailleurs annulé. Ils ont fouillé partout cherchant certainement de l'argent. Ils n'ont pris que 80 francs environ de la garderie. Un peu de plus, il n'y avait plus d'école, car ils ont mis le feu dans le bureau du maître. Mais heureusement, il s'est étouffé et n'a donc pas pu s'étendre. Les élèves décident donc de demander à Sourisette si par hasard, elle a vu ou entendu quelque chose.
Chère Sourisette, j'espère que tu n'as pas eu peur des cambrioleurs qui sont venus dans la nuit de dimanche à lundi. Les as-tu entendus? Les as-tu vus? Quand j'ai aperçu les gendarmes à l'école, je me suis demandé ce qu'il se passait. Ils ont même mis le feu au bureau du maître. Ils avaient l'intention de mettre le feu à l'école. J'attends de tes nouvelles. Gros bisous, Élodie.
Sourisette donne alors de ses nouvelles.
Cher ami, j'ai bien vu les voleurs. Si tu savais comme j'ai eu peur, je dormais quand j'ai entendu un bruit. Je me suis dit, À cette heure-là, c'est impossible. Alors je suis sortie de mon trou quand, tout d'un coup, je les vois. C'était bien eux. J'ai voulu appeler les gendarmes, trop petite pour taper sur les touches. Alors, tellement inquiète, je suis allée voir Sorisso pour me soutenir dans l'ancienne maternelle. Ils étaient malheureusement vêtus de noir et avaient une cagoule sur le visage. Je n'ai donc pas pu les reconnaître. C'est dommage, car j'aurais pu aider les gendarmes. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais vous quitter car je pars rejoindre mon cousin qui habite en Australie. Là, je verrai des kangourous. N'ayez pas peur, je vous enverrai une carte postale. Je suis triste, bien sûr, de partir. Gros bisous, au revoir, Sourisette.
Lorsque les enfants reçoivent cette dernière lettre, ils sont très attristés et s'empressent de lui écrire.
Chère Sourisette, tu nous quittes, c'est dommage. Là où tu vas, il n'y aura peut-être pas de voleurs. Moi, je suis triste. J'aimais bien t'écrire des lettres avec les copains et les copines. Je t'adorais. J'espère qu'on pourra se téléphoner. Pourrais-tu me donner ton numéro de téléphone ? Bon, il faut quand même se quitter. Bon, allez, en souvenir de toi, on dessinera des souris belles comme toi. Au revoir, peut-être adieu, gros bisous, Marie.
Toute la classe te souhaite un excellent séjour.
Laboratoire.
Je suis élève de la chapelle Montreuil et comme chaque soir, nous allons vous proposer une énigme.
Comment faire flotter du métal ?
Énigme.
Jules dit que le bois flotte. Zoé dit que le métal flotte. Qui a raison, qui a tort ?
Description. Jules a raison, bien sûr. Zoé a aussi raison dans certains cas. Dans un seau rempli d'eau, Zoé a mis un récipient en métal dans lequel elle a mis des poids d'une valeur de 100 grammes. Le récipient flotte.
Explication. En pesant la boîte de métal remplie d'eau, on peut connaître le poids transportable par la boîte de métal. Si on dépasse cette charge, la boîte coule.
Si vous allez à la mer,
vous verrez de gros bateaux en métal et qui flottent.
Sophie, Armelle, Ludivine, Anne-Lise, Alexandra.
Fréquence buissonnière. Radio des écoliers et des écolières.
Le feuilleton.
Le feuilleton.
Sacré peur chez les chadeurs.
Sacré peur chez les chadeurs.
Épisode 3, drôle de clown.
Mardi vers 15h, Marc fut emmené dans la salle d'opération. Une demi-heure plus tard, l'opération s'achève, tout s'est bien passé. Les infirmières placent Marc sur un lit roulant et l'amènent dans la salle de réveil. Un quart d'heure plus tard, Marc ouvre les yeux en entendant de la musique classique. Après être resté un peu dans la chambre de réveil, on lui pose une perfusion et les grands gardiens le ramènent dans sa chambre. Ses parents sont déjà là à l'attendre. Le chirurgien leur explique comment s'est déroulée l'opération.
Votre fils a été très courageux. Nous lui avons fait deux petits trous dans le bas du ventre qui nous ont permis de passer les micro-instruments et nous avons retiré l'appendice inflammé. Puis, on a recousu. Sa cicatrice est toute petite. Votre fils aura peut-être un peu de mal à se déplacer pendant quelques jours, mais c'est tout à fait normal.
Les parents de Marc restent un peu avec leur fils qui se sent très fatigué. Vers 18h, sa maman repart s'occuper de Caroline, la sœur de Marc, âgée de 4 ans. Pour cette nuit, lui et son papa restent dormir à l'hôpital sur un lit prévu à cet effet. Pendant la nuit, Marc se réveille 2 fois. Le lendemain matin, son père repart au travail. Il est chef de personnel dans une entreprise. En début d'après-midi, Marc entend frapper à la porte. Un clown entre dans sa chambre. Il porte des lunettes qui font au moins 8 cm de large. Un habit jaune avec des pois rouges, des chaussures immenses. Il y a une chaussure rouge et l'autre bleue. Ses cheveux sont violets et tout en pétard. Son visage est maquillé en blanc et ses sourcils sont verts.
Salut mon bonhomme, comment t'appelles-tu ?
Marc, et toi ?
Moi c'est Cocorico le clown. Je suis ici pour te faire rire, pour que tu trouves le temps moins long.
Il lui présente des tours de magie. Il avale des sables sans se tuer. Il réussit à modifier la tête des cartes de jeu. Il jongle avec des balles. Il les fait disparaître. Marc adore ça. Il n'a pas de rire.
Oh, c'est super! Quand est-ce que tu reviens?
Un de ces jours. Et bon courage en attendant mon petit gars.
Le jour suivant, Marc se sent mieux en mieux. Il a même fait quelques pas dans le couloir. Vers 11h, Marc voit la porte de sa chambre qui s'ouvre.
Ah, bonjour Cocorico! Bonjour Marc, ça va mieux on dirait. Aujourd'hui, j'ai réussi à marcher ce matin.
Aujourd'hui, le clown paraît plus gros qu'hier. Il est tout serré dans ses habits. Sa voix aussi est plus grave, bizarre.
Marc, sais-tu quel jour tu sors?
Non, pourquoi?
Oh, c'est pour savoir si je vais pouvoir revenir te voir. Dis-moi, tes parents doivent venir aujourd'hui en fin de semaine?
Je ne sais pas, mais pourquoi? Tu me poses toutes ces questions. Je voudrais que tu me fasses rire avec tous tes tours de magie, comme hier. Tu n'as pas à connaître toute ma vie.
Oh, mais tu m'énerves avec tous tes tours à la fin,
s'écrie le clown.
C'est Ginette l'infirmière qui apporte le goûter. Quand le clown l'aperçoit, il part sans même dire au revoir.
Alors, tu t'es bien amusé avec Cocorico?
Non, pas du tout. Il n'avait que de me poser des questions.
Tiens, c'est curieux, c'est pas son genre. Bon, je te laisse. À bientôt.
Pendant les 2 jours qui suivent, Marc reçoit beaucoup de visites. Ses grands-parents, Fred, ses parents et sa sœur Caroline. Il s'occupe en jouant avec le puissance 4 électronique que ses parents lui ont offert. Il regarde la télé, lit un peu. Il n'a pas revu le clown. Le vendredi soir, il commence à s'ennuyer et aimerait bien rentrer chez lui. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, Claudine arrive dans la chambre de Marc et lui dit d'un ton joyeux.
J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu sors demain.
Marc, ravi, s'empresse de téléphoner à sa mère.
Allô, maman? L'infirmière vient de me dire que je sortais demain. Tu peux venir faire ma valise, s'il te plaît? J'ai hâte de rentrer à la maison pour voir Spoutnik et Caroline. Alors, à tout de suite.
20 minutes plus tard, Yvette arrive.
Bonjour mon lapin, comment vas-tu?
Super bien, maman.
Elle prépare la valise, reste un peu avec son fils et repart vers 18h. Le soir arrive, Marc s'installe devant la télé, mange puis va se coucher. Il faut qu'il soit en forme, car demain, sa mère vient le chercher vers 11h. Le lendemain, à l'aube, le clown pénètre sans bruit dans la chambre de Marc avec le petit déjeuner. Sur le plateau, il y a des comprimés à avaler. Marc s'interroge.
Mais je n'en prends plus depuis hier. Ceux-là, tu les avales. Et vite,
rugit le clown.
Allez, prends-les.
Marc refuse à nouveau. Alors Cocorico lui ouvre la bouche de force et lui fait avaler. Peu après, Marc se sent fatigué. Si fatigué, il s'endort. Le clown le met alors dans le grand sac qui lui sert à ranger son matériel et s'enfuit avec l'enfant.
À suivre. Sacré pauvre chez les chapeaux.
102.9.
Et hop!
Devinette. Devinette. Devinette.
Bonjour, nous sommes les enfants de CP de l'école de Quincey. Nous nous retrouvons pour vous proposer la suite de nos devinettes fruits. Tout d'abord, voici les réponses aux devinettes proposées hier. Il fallait trouver la framboise, le coin, l'ananas, la banane, la clémentine. Aujourd'hui, Nicolas, Léa, Ismaël, Pauline et Lucie vous proposent leur devinette.
Ce fruit a des pépins. Il peut être violet ou vert. Il pousse en grappe. Il pousse sur une vigne.
Ce fruit ne pousse pas en France. Il a une forme de pomme. On prend ses graines pour fabriquer une boisson délicieuse qui est rouge. La peau est jaune, orange et rouge. Il est fait de beaucoup de graines.
C'est un fruit qui pousse sur des buissons. Il a une forme de boule avec plein de petites graines. Il pousse des fois dans les bois, mais moi j'en ai chez moi. Il est noir.
Il pousse en France. Il pousse dans un arbre. On le mange en été. Il est rond et il se partage facilement en deux pour enlever le noyau. Il est rond. Mon fruit est rond. Il a quelquefois des pépins. La peau est orange. La pulpe est orange. Il est gros comme une pomme. Vous avez trouvé les réponses. Notez-les bien. Envoyez-les nous par mail. Nous vous répondrons. Ou bien attendez demain et nous vous donnerons les solutions au début de l'émission. Voici notre adresse. Classe 3. -15@cg86.fr.
Bonjour, voici des élèves de quelques communes environnantes. Nous allons leur poser quelques questions sur ce qu'ils ont fait et appris durant la préparation de la semaine de presse.
Léonard Alain Launay de la commune de Quincey en CE2.
Claire Leroux d'Aval, CE2 de l'école de Quincey.
Barbara Huss, de la commune de Quincey, CE2.
Audrey Serpin, de Chalandray, Chancène.
Isabelle Chemin, de Venacé.
Amélie Joyeux, commune de Venacé, en CM1.
Alors bonjour, appréciez-vous ce que vous avez fait pour le projet radio?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait dans le projet?
J'ai bien aimé quand on posait les questions.
C'était pour quand on a fait le voyage dans la forêt de Chizé.
Ah ouais, vous avez été découvrir une forêt?
Ouais.
Et vous?
Nous, c'est quand on a fabriqué des poésies.
Vous en connaissez là, des poésies?
Oui. Dans tous les pays de l'Europe de demain, les bureaux de change ne serviront plus à rien. Adieu, vieilles pièces et vieux billets. Adieu, francs belges et francs français. Adieu, les livres, les drachmes et les florins. L'euro paiera tout d'Athènes jusqu'à Dublin.
Magnifique printemps, tu nous offres 1000 fleurs. Mars, avril et mai sont 3 bouquets de bonheur. Devant tous les auditeurs, nous te crions « Je t'aime ». Merci de pouvoir te le dire aujourd'hui à l'antenne.
Et vous avez chacun inventé vos poésies?
Non, c'était collectif.
Collectif.
Ouais. C'était des poésies qui existaient déjà ou...
Non,
on les a inventées.
Et vous en avez fait combien?
5.
Est-ce que vous êtes reconnue quand vous êtes passée à la radio, si vous êtes passée?
Pas trop.
Oui, pas trop.
Vous trouvez que ça change les voix?
Oui.
Ah oui. Oui. Beaucoup.
Ça vous a appris beaucoup de choses?
Oui.
Et est-ce que ça vous a plu?
Oui. Oui.
Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Puis, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
En Amérique du Sud,
yeah.
avec Vincent et Sébastien.
Et non, ça joue toujours.
Avec Vincent et Sébastien.
On se demande où est passé l'arbitre.
Avec Vincent et Sébastien.
Ah, bel arrêt du gardien.
Bon bah aujourd'hui on va vous présenter une petite séquence sur le ping-pong avec une invitée de choix.
Je te coupe déjà, on dit tennis de table, on dit pas ping-pong, c'est comme pour les majorettes, ok?
Ah bon, on dit tennis de table. Ouais, alors tu fais du ping-pong où, Vincent?
À la Ferrière.
Et c'est un gros club?
Bah assez, ouais.
Vous êtes combien?
Bon, une cinquantaine.
Et t'es classé combien dans ton club?
60.
Et tu peux battre championnat?
Bah si, par équipe, puis seul.
Donc est-ce que tu peux expliquer un peu les règles du ping-pong, comment ça se passe le ping-pong?
Ben en fait le ping-pong c'est simple, c'est en fait c'est le premier qui gagne 3 manches de 11 points cette année, parce que ça a changé, la dernière c'était pas comme ça, enfin bon. Là c'est juste attendre qu'il y en a un qui gagne 3 manches de 11 points et puis il a gagné.
C'est comme un set en tennis quoi en fait.
Ouais voilà, ouais, c'est un set, de toute façon celui-là qui gagne 3 sets a gagné tout le match.
Et comment ça se passe l'équipement? Vous avez des nouvelles balles? Parce qu'avant vous avez les petites, maintenant vous avez les grosses.
Ouais ouais, avant on avait les balles de 35, maintenant on a des balles de 40.
Bon, moi j'ai entendu que c'était pour que ça passe mieux à la télé, pour qu'on voit mieux la balle, que ça aille moins vite. Et est-ce que ça change ta manière de jouer sur les effets et tout?
Enfin au début ça change, mais bon maintenant je suis habitué, ça fait un an que je joue comme ça.
Et pour une licence c'est combien pour faire du ping-pong? Du tennis de table.
Merci. En fait ça dépend, si tu veux faire que les entraînements t'en as pour 100 balles, et si tu veux faire les entraînements et les matchs c'est 200.
Et une raquette ça vaut combien à peu près? Enfin une bonne raquette quoi.
La raquette que j'ai, elle vaut 580. C'est pas donné. Hein.
Autrement, tu utilises n'importe quoi. Enfin, je veux dire un short, un t-shirt.
Normalement, au niveau professionnel, quoi, t'es obligé de mettre un short et un maillot. Mais autrement, comme nous, là, quand il fait froid, ce temps-là, pantalon, 3 pulls, hein. Allez hop, là.
Et autrement, c'est vachement attractif comme jeu, le ping-pong, mais c'est pas très très sportif quand même. Enfin, c'est pas obligé d'avoir une bonne condition physique.
C'est vrai que c'est pas comme le foot, tu cours après un ballon, mais t'es quand même à la table, t'es obligé de bouger tout le temps, quoi. C'est les professionnels, tu regarderas, ils bougent tout le temps pour être bien placé pour la balle. Bon, c'est vrai que c'est pas trop trop physique comme sport, c'est pas le sport le plus physique qu'il y a, quoi.
Ouais, et les déplacements ils sont vachement courts mais ils sont rapides quoi, c'est ça?
Ouais, en fait, ouais, c'est une question de rapidité, ouais, parce que autrement la table t'as pas de mal à l'occuper quoi, mais faut que tu sois rapide sur la balle.
Bon, ok. Et comment ça se passe au point de vue entraînement?
Bah, entraînement, nous c'est le jeudi soir et le samedi matin, enfin 2 heures par semaine, enfin ça dépend quoi. En fait, le jeudi soir normalement c'est réservé aux adultes et le samedi matin aux plus jeunes. Moi j'y vais tout le temps le jeudi soir.
Ben voilà, ben on vous a présenté un petit panorama sur le ping-pong. Et puis, salut Vincent. Salut à vous et puis ciao.
Merci.
Allô, ça va?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais?
J'écoute la radio.
Ah bon?
Oui.
Il y aura du vent ou du soleil?
Du soleil.
Beaucoup de soleil?
Oui.
Mais moi, je vais aller me baigner aussi.
Ben moi, j'écouterai la radio toute la matinée.
Ah bon?
Oui.
Parce que t'aimes bien écouter la radio?
Oui.
Et demain matin, qu'est-ce qu'il y aura?
Ben, il y aura du brouillard.
Ah bon?
Oui.
Pendant 4 semaines, il y aura du soleil.
Après demain, il y aura beaucoup de soleil, mais un petit peu de brouillard dans la matinée.
Pourquoi?
Parce que c'est la météo qui décide.
Mais peut-être qu'elle va se tromper?
Bah... peut-être, on sait jamais avec la météo. Hein.
Mais moi, elle s'était trompée. Elle a dit qu'il faisait du brouillard, mais il faisait toujours du soleil.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
The weather forecast.
The sun.
The weather forecast.
Comment?
The weather forecast.
The sky.
The weather forecast.
Comment?
En anglais, ça veut dire la météo.
Comment?
The weather forecast.
Ah, là, je crois que j'ai compris.
Quoi?
The Weather Forecast.
Aujourd'hui avec
Olivier,
Marie,
Nicolas,
Mélanie,
Franck,
Jérôme.
Hello, today it's Wednesday the 28th of March.
Hello Maui, what's the weather like today?
The sky is grey and it's going to rain.
Oh no, lousy weather.
You said it, quel temps de chien.
But April showers bring May flowers.
I know that one. Les giboulées de mars amènent les fleurs de mai.
Jérôme, have you got a postcard today?
Yes, here it is. It's a postcard from Emmanuel.
Can you read it, please?
Of course. I'm on holiday in Scotland yesterday. I went fishing and guess what I saw there? Nessie, the monster of the Loch Ness. I tried to catch it, but I fell into the water and the monster disappeared. I was soaked like a soup.
Trempé comme une soupe? It means you were soaked to the skin.
Yes, I know it is. Trempé jusqu'aux os.
Lucky Emmanuel, he saw the monster at least.
That's right.
Alors, il va faire beau demain?
Moi, j'ai tout compris.
Il va faire beau demain?
Moi, j'ai tout compris.
Comment?
Ça fatigue juste la langue.
Dans notre planète, il y a des pays, des villes, des océans. Et puis mon cœur. Mon cœur qui bat tout bas.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et à demain, de 18h à 19h, sur Fréquence Bissonnière.
Dans notre pays, il y a des villes, des rues, des plages. Et puis mon cœur. Mon cœur qui bat tout bas. Et hop.
Au revoir.
Et les buissons disparaissent, oui.
Dans notre ville, il y a des fêtes, des églises, des nuages gris. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Fréquence buissonnière de 18h à 19h, 102.9.
Ça sert à rien de le répéter tout le temps.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Écoutez-leur, dit-il, ce que vous dit le grain.
Dans notre rue, il y a une forêt, des enfants, de la pluie et des parapluies. Et puis mon cœur qui bat tout bas.
Thank you.
Dans ma vallée, il y a Losange, cette rivière majestueuse et fière qui chante et clapote sur les cailloux clairs. Et moi, de la fontaine au lavoir, de l'école à la mare, je cours, toujours, toujours.
Dans ma commune, il y a 100 000 arbres, chênes, érables et robiniers pour étouffer les déchets. C'est à notre seringa et forsythia pour fleurir mon jardin à moi. Chêne, hêtre ou peuplier qui habite à la forêt ou la vallée. Il en est un qui est fils unique. Il habite à l'école publique. C'est un chêne d'Amérique. Comme lui, je cours, toujours, 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 toujours.
Merci.